Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et dans les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, escalade de la violence en Israël et dans la bande de Gaza. Des affrontements hier ont fait 26 morts. La procédure de destitution de Donald Trump qui avance et qui continue. De nouvelles révélations ont été faites dans l'affaire avec l'Ukraine. Et je vous en parlais en titre, la mort d'une légende du sport français, le cycliste Raymond Poulidor est décédé hier à l'âge de 83 ans. Mais on va débuter ce journal avec, bien entendu, les incendies qui ravagent une certaine partie du pays depuis les dernières semaines. Une quatrième personne a été confirmée morte en Nouvelle-Galles du Sud. Le corps, celui d'un homme qui a été donc retrouvé dans le bush au nord-ouest de la ville de Dempsey. Les dizaines d'incendies continuent à se répandre dans l'état d'urgence a donc été toujours été mis en vigueur. Pendant ce temps, les pompiers du Queensland profitent d'un bref répit avant une nouvelle aggravation d'ici à ce week-end, ce qui est attendu. Plus de 70 incendies sont en train de se répandre dans tout l'État, alors que de dangereux vents, des vents secs d'ouest qui devraient s'intensifier dans la journée et s'intensifier à travers le week-end. Plusieurs incendies continuent à susciter de vives préoccupations, notamment à l'ouest de la Gold Coast, près de Yeppoon, ou alors encore dans le centre du Queensland. Le commissaire adjoint des pompiers, Kevin Walsh, a appelé les habitants à tenir compte des avertissements officiels. On l'écoute.
We don't want people saying, oh, there was a bushfire years ago and that was okay. You haven't had bushfires like these bushfires before, and we're expecting people to listen to the warnings and work on their bushfire survival plans. And if in doubt, now's the time to leave.
Voilà donc pour les pompiers. Si vous êtes vraiment, vous l'avez compris, s'il y a le moindre problème, quittez votre maison et n'hésitez pas à écouter les informations pour en savoir un peu plus. Dans l'actualité internationale, deuxième journée d'affrontement entre l'armée israélienne et la faction islamiste dans la bande de Gaza. Les frappes des forces israéliennes contre les positions du djihad islamique ont fait au moins 26 morts depuis hier sans aucun signe d'apaisement. Depuis mardi, au moins 250 roquettes ont été tirées vers l'Israël, qui dit en avoir intercepté 90%. Les explications depuis Jérusalem avec Guillaume Deltey.
Le combat contre le djihad islamique a dominé les débats du Conseil des ministres israéliens ce mercredi. Après avoir rendu hommage aux forces armées pour leur efficacité à protéger le territoire israélien et à mener des actions contre des membres de ce groupe considérés comme terroristes par Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis de poursuivre ces actions, même si cela peut prendre du temps, a-t-il prévenu.
J'ai dit hier que nous ne cherchons pas une escalade, mais que nous répondrons à chaque attaque contre nous et que nous répondrons avec force. Le djihad islamique ferait mieux de comprendre cela maintenant plutôt que quand il sera trop tard. Je crois que le djihad islamique est en train d'intégrer ce message. Il comprend que nous continuerons à les frapper sans pitié.
En réponse, le porte-parole du djihad islamique a assuré respecter les efforts de médiation, mais nous sommes en train d'envoyer un message à Israël, a-t-il déclaré. Une fois que cela sera terminé, ce sera le moment de parler de calme, a-t-il jugé. Pour le moment, chaque partie estime avoir besoin de montrer sa force pour décourager l'ennemi, et l'escalade actuelle est très dangereuse, juge le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Proche-Orient.
Et c'était Guillaume Deltey pour RFI. Nouvelle étape dans la procédure d'invalidation lancée contre le président américain. Donald Trump est accusé, je vous le rappelle, d'avoir suspendu son aide militaire à l'Ukraine pour simple but de nuire à son rival politique démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden. C'est en tout cas ce qui lui est reproché. Et les audiences dans l'affaire donc ukrainienne en question ont été rendues publiques. Et un élément nouveau dans l'affaire, un élément apporté par Bill Taylor, chargé d'affaires en Ukraine. Il évoque une conversation téléphonique entre le président américain et Gordon Sondland, un très important contributeur à la campagne électorale donc de Donald Trump, qui est depuis devenu ambassadeur auprès de l'Union européenne. On écoute Bill Taylor.
Vendredi dernier, un de mes collaborateurs a parlé d'un événement qui s'est déroulé le 26 juillet. Pendant que l'ambassadeur Volker et moi étions en visite sur le front, mon collaborateur a accompagné l'ambassadeur Sondland et ce dernier a rencontré un responsable ukrainien. Après cette réunion, en présence de mon collaborateur au restaurant, Gordon Sondland a appelé le président Trump et lui a relaté ses réunions à Kiev. Mon collaborateur pouvait entendre le président au téléphone poser des questions à Sondland au sujet des enquêtes. L'ambassadeur Sondland a dit au président que les Ukrainiens étaient prêts à aller de l'avant. Après ce coup de téléphone, mon collaborateur a demandé à Gordon Sondland ce que le président pensait de l'Ukraine. L'ambassadeur Sondland a répondu que le président Trump s'intéressait surtout à l'enquête sur Biden que Giuliani voulait obtenir. Quand j'ai fait ma déposition ici le 22 octobre, je n'étais pas au courant de cette conversation.
Voilà donc. Alors écoutons également maintenant Adam Schiff. Il est président du comité de l'information de la Chambre et il a déclaré qu'il restait encore beaucoup d'informations à venir dans cette histoire.
The president has instructed the State Department and other agencies to ignore congressional subpoenas for documents. He has instructed witnesses to defy subpoenas and refuse to appear. And he has suggested that those who do expose wrongdoing should be treated like traitors and spies. These actions will force Congress to consider, as it did with President Nixon, whether Trump's obstruction of the constitutional duties of Congress constitute additional grounds for impeachment.
C'était donc Adam Schiff. Et pour conclure cette histoire, eh bien, les républicains accusent des démocrates d'orchestrer une campagne de diffamation dans les médias contre le président, un président qui n'a rien fait. Je cite le représentant Devin Nunes a déclaré qu'en sapant M. Trump, eh bien, la justice et les ministères en question ont perdu la confiance de millions d'Américains. On l'écoute.
It will take years, if not decades, to restore faith in these institutions. This spectacle is doing great damage to our country. It's nothing more than an impeachment process in search of a crime.
Voilà donc pour cette histoire d'impeachment, d'invalidation de Donald Trump. Et d'ailleurs toujours avec l'Ukraine, une affaire qui n'est pas du meilleur effet pour le nouveau président Vladimir Zelensky, qui avait, je vous rappelle, fait campagne contre la lutte de la corruption. Et c'était devenu son cheval de bataille. Et bien une de ses employées a été prise en flagrant délit de recevoir un pot de vin de 150 000 $. Anastasia Bicchio.
Ces 150 000 $ étaient en réalité la première tranche d'un dessous de table de 300 000 $, soit environ 270 000 €. Une somme que la responsable de l'un des départements de l'administration présidentielle avait réclamée pour faciliter la nomination d'une personne au sein de Naftogaz, la compagnie énergétique publique du pays, selon le bureau anticorruption. Plusieurs médias ukrainiens pointent Svetlana Kondzelou, une femme âgée de 45 ans, qui occupait le poste de directrice du département chargée de répondre aux requêtes des citoyens. Elle a été interpellée en compagnie de plusieurs complices, dont une ancienne vice-ministre de la Culture. L'affaire illustre la difficulté à laquelle est confrontée la nouvelle administration dans sa volonté de lutter contre la corruption. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la présidence ukrainienne affirme que pour le chef de l'État, il n'y a pas de différence entre ses équipes et les autres. La corruption doit être déracinée. Plus la position d'un fonctionnaire corrompu est élevée, plus ces infractions sont dangereuses pour l'État. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'acteur Volodymyr Zelensky au printemps, la législation anticorruption a été renforcée. Des poursuites ont été engagées contre plusieurs hauts responsables, anciens et actuels. L'employé, pris en flagrant délit à la présidence, y travaillait depuis 10 ans.
Et c'était Anastasia Becchio pour RFI. Retour en Australie, le gouvernement fédéral a publié des directives pour lutter contre l'ingérence étrangère au sein des universités australiennes. Les agences de sécurité ont prévenu que des interférences atteignaient des niveaux sans précédent ces dernières années. Les directives se concentreront sur le renforcement de la cybersécurité après le piratage majeur de l'Université nationale australienne à Canberra, c'était l'an dernier. Le ministre de l'Éducation, Dan Tehan, a déclaré qu'il était important que les universités comprennent les risques et s'assurent que toute la collaboration avec d'autres pays du secteur tertiaire est dans un intérêt national pour le pays. Il a déclaré à l'ABC qu'il peut être difficile de déterminer le produit final de la recherche de ces étudiants, mais les lignes directrices aideront les universités à identifier les dangers potentiels. On l'écoute.
And you can also make sure that if you've done the due diligence, you understand what the links might be between that professor and certain other institutions in a country, which then might bring up red flags. And that's when the collaboration and cooperation kicks in, because then you can raise those concerns with government agencies.
Voilà, donc c'était Dan Tehan, le ministre de l'Éducation. Direction Hong Kong maintenant, la police qui a défendu le niveau de force utilisé ces derniers temps contre les manifestants, alors que la violence s'empare à nouveau de la ville. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés lors de plusieurs manifestations. Les activistes bloquent toujours certaines routes et certains transports en commun. Plusieurs écoles et entreprises ont été forcées de fermer. Le superintendant principal de la direction des relations publiques de la police, Tse Chung Chung, a déclaré que tous les pouvoirs légaux seraient utilisés pour appréhender les criminels. On écoute.
We must make this very clear. Nowhere in Hong Kong is lawless land. If someone breaks the law, regardless of where you hide, the police have lawful powers to come after the offenders and bring them to justice.
13h11, un mot de sport pour conclure ce journal. Tout d'abord, la capitaine des Matildas, Sam Kerr, qui est en route pour Chelsea, le club anglais, dans un contrat de 2 ans, mettant fin à des semaines de rumeurs et de spéculations sur son avenir. L'attaquante de 26 ans rejoindra donc Chelsea pour la deuxième partie de la saison de la Super League anglaise. On écoute Sam Kerr sur Fox Sport. Elle dit qu'elle est excitée de prendre donc la route de l'Angleterre.
It's been a dream of mine for... You know, since I was a kid to play in Europe, and in the last year, kind of just thought about it and thought this is the time. And yeah, I felt really comfortable with Chelsea, speaking to the coach. So yeah, I just thought it was time. I think at the end of the day, for me, the most important thing was about me feeling comfortable.
Voilà, donc Sam Kerr, la capitaine des Matildas. Je vous en parlais en titre, la mort d'une légende du sport français. Le cycliste Raymond Poulidor s'est éteint. Il avait 83 ans. Il aura marqué la culture populaire en France pendant des décennies. Étant l'éternel second, il n'aura jamais remporté le Tour de France, ni même porté le maillot jaune. Nous ferons d'ailleurs un point complet dans le journal des sports dans quelques minutes avec Jean-Noël. Mais voici quelques réactions. Tout d'abord, celle de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
Le départ de Raymond Poulidor, c'est un pan de l'histoire du Tour de France et du cyclisme qui tombe sans aucun doute. Raymond, c'est une formidable carrière, une très très longue carrière, 18 années professionnelles, 14 Tours de France, le recordman des podiums sur le Tour. Et puis c'était l'une des légendes de ce Tour parce qu'il était le symbole de la gloire sans maillot jaune, ce fameux maillot jaune qu'il avait tant voulu, qu'il n'avait jamais pu conquérir, mais dont il savait aussi qu'il avait finalement fait sa légende précisément parce qu'il n'avait jamais pu le porter. C'est un homme, c'est un grand champion, c'est celui qui a osé affronter et défier Jacques Anquetil et 10 ans plus tard Eddy Merckx. C'était quelqu'un à la formidable bonhomie, qui était aimé partout, qui avait eu aussi beaucoup de malchance, même si lui disait qu'au contraire, il a eu beaucoup de chance dans sa vie, avec jamais vraiment une chute très sérieuse. C'est quelqu'un qui était proche des gens.
Voilà, donc Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Écoutons également l'ancien coureur et actuel consultant pour Radio France, Jean-François Bernard.
Il y avait une France Anquetil, une France Poulidor. Poulidor venait, vraiment du terroir, comme Anquetil, mais qui était peut-être un petit peu plus connu, tout du moins, venait pas vraiment de la terre, même avec un avantage déjà au départ. Je crois que ça a été un duel assez incroyable pendant des années, mais avec en même temps, une amitié entre les deux coureurs. Ces deux coureurs qui s'appréciaient énormément. Et on avait toujours plaisir à entendre Poulidor parler d'Anquetil ou d'Anquetil parler de Poulidor. Parce que c'était une histoire, une histoire de tous les jours, pratiquement pendant des années.
Voilà donc Jean-François Bernard. Restez à l'écoute d'ailleurs du programme si cela vous intéresse, car j'ai eu le privilège de parler à Raymond Poulidor. C'était le 14 juillet dernier. Nous rediffuserons cette interview tout de suite après le journal des sports. Coup d'œil météo pour aujourd'hui à travers l'Australie. À Perth, il fera 37 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 22. Hobart, 19. Canberra, 25. Wollongong, 23. Sydney, 26. Brisbane, 29. Cairns, 31 degrés. Et Darwin, 35 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité. Donc pour aujourd'hui, escalade de la violence entre Israël et la bande de Gaza. Des affrontements ont fait hier 26 morts. La procédure de destitution de Donald Trump qui avance. De nouvelles révélations ont été faites hier dans l'affaire avec l'Ukraine. Et on vient de l'entendre, la mort d'une légende du sport français. Le cycliste Raymond Poulidor s'est éteint à l'âge de 83 ans. 13h14, courte pause et on parle de sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.